Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Philippe Hersan est né en 1948 à Rome. Il est un des compositeurs français contemporains parmi les plus raffinés et d'ailleurs reconnus. Peut-être est-ce le hasard de cette naissance en Italie qui fait qu'une grande part de son inspiration puise dans les racines du répertoire et des textes sacrés de la période baroque. Il est à juste titre couvert de prix et fut ainsi, par exemple, Grand Prix musical de la ville de Paris en 1990, Prix Nouveau Talent de la SACD en 1993 ou encore Grand Prix musical de la Fondation Simone et Cino Del Duca en 2001 et compositeur de l'année aux Victoires de la Musique en 2005 puis à nouveau en 2010, etc., etc. Pour la petite histoire et faire un peu de people culturel, ajoutons que les auditeurs de France Culture connaissent aussi très bien son frère, Yves Hersan, spécialiste de la pensée et des arts de la Renaissance européenne. Auteur, éditeur et traducteur, par exemple de l'œuvre de Giordano Bruno, c'est Yves Hersan qui a composé le livret de l'opéra « Le Moine Noir » dont la musique fut composée par son frère Philippe. Pour mieux connaître ce compositeur intelligent et raffiné, vous pouvez lire ses entretiens avec Jean-Marc Bardot, paru en 2003 chez Cigar Édition. Dans cette émission datant de 2002, il s'entretient avec la philosophe et musicologue Danielle Cohen-Lévinas.
Nocturne avec Philippe Hersan. Qu'est-ce que la mémoire ? Qu'est-ce que le souvenir ? Comment se rappeler et comment arracher à la mémoire des moments d'émotion ? C'est peut-être une des préoccupations les plus récurrentes du compositeur Philippe Hersan, pour qui la musique est chargée de ces messages ou affinités secrètes et indissociables du vécu et par conséquent de la création musicale. Philippe Hersan, en effet, j'ai tout à fait envie d'amorcer ce dialogue avec vous en évoquant la question du souvenir et la question de la mémoire. Parce qu'en parlant un petit peu de cette émission, en la préparant avec vous, c'est quelque chose qui est ressorti de façon assez éloquente.
Disons que la mémoire, le souvenir musical est devenu pour moi comme un élément constitutif de mon langage, comme le souvenir musical, je crois, le déclencheur de mon imagination. Souvenir qui vient souvent, en général, tout à fait par hasard. Il n'est pas convoqué,
Il
n'est pas volontaire, oui. Mais je sais qu'il nourrit complètement. Il est à l'origine de mon acte créateur, si on veut.
Est-ce que cela vous oblige à chaque fois à en analyser les ressorts ou à l'objectiver ? Parce que, en général, tout ce qui est lié à la mémoire. Ça ramène à des événements plutôt intimes, plutôt secrets. Ça réveille des choses qui sont souvent extrêmement émotionnelles.
Oui, bien sûr, ça réveille des choses
obsessionnelles.
Voilà, j'ai lâché le mot sans le vouloir. Ça réveille des choses émotionnelles et obsessionnelles. Mais disons, ce qui m'intéresse dans le souvenir, c'est je le traite en fait comme un objet, oui, façonné par le temps. C'est-à-dire que je ne cherche pas du tout la citation exacte. Je cite souvent des œuvres, mais ce n'est jamais exact. C'est toujours déformé par le temps. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'a suscité cet objet musical il y a longtemps. Et, et comment je l'ai transformé. Comment, si vous voulez, d'une certaine façon, je me le suis approprié. Parce que j'ai l'impression que toutes ces musiques que j'entends finissent par faire partie de moi-même, en fait, faire partie de mon univers et une démarche peut-être un peu borgésienne. Mais je sais que c'est de plus en plus ce qui déclenche chez moi l'acte de création.
Autrement dit, le souvenir est sédimenté par le temps.
Oui, il est érodé, il est enrichi, il est appauvri, enfin, en tout cas transformé, quelquefois très transformé, comme on pourra peut-être l'entendre au cours de cette émission.
Philippe Hersant, éphémère. Éphémère de Philippe Hersant.
Alors, c'est une des pièces de ce cycle. Il y aura peut-être 30, 40 pièces pour piano, je ne sais pas encore. C'est un cycle en cours d'élaboration qui est basé, enfin inspiré, disons, par des haïkus d'un moine japonais, Basho.
Basho.
Voilà. Le poème s'appelle Vent d'automne. Et j'aime beaucoup ce journal de voyage qu'a écrit Basho parce qu'en fait, son journal, c'est une suite de haïkus qui. Où il se penche sur des détails infimes. Quoi. Il ne décrit pas de paysage, mais il décrit une émotion minuscule.
Alors, il faut dire que les haïkus, ce sont des tout petits textes, en fait, voilà, extrêmement brefs.
Ouais. Et celui-ci dit « Est ou ouest, même tristesse, vent d'automne ».
Je voudrais revenir, Philippe Hersant, sur cette notion du souvenir, hein, du temps, qui s'impose à vous de manière un peu érodée.
Je pense que l'œuvre la plus représentative, c'est en tout cas celle, le moment où je me suis rendu compte vraiment du rapport que j'avais avec le temps, cette façon de jouer avec le temps. C'est mon trio qui est une sorte de grande variation sur une pièce baroque, la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont, Marin Marais, qui est une pièce très très obsédante. C'est une sorte de passacaille, mais sur un thème de trois notes seulement. C'était le carillon que Marin Marais entendait de ses fenêtres, qui est... On avait donc trois notes, fa, mi, ré, fa, mi, ré, fa, mi, ré. Et Marin Marais écrit une pièce d'une dizaine de minutes uniquement sur ces trois notes qu'on entend tout le temps à la basse. C'est donc une pièce extrêmement obsédante et d'une beauté qui m'a vraiment fasciné.
Alors on va écouter ces sonneries de Sainte-Geneviève.
Thank you.
Denis Persan, on écoutait donc ces sonneries de Sainte-Geneviève, de Marin Marais, qui ont joué pour vous de manière obsessionnelle et dont vous vous êtes souvenu au moment de la composition du trio.
C'est-à-dire que j'ai travaillé depuis un mois sur ce trio sans trouver la moindre idée, la moindre porte d'entrée. Si vous voulez. C'était des suites d'esquisses de brouillon un peu sans queue ni tête. Je commençais à être un petit peu inquiet de ce manque total d'inspiration, de cette page qui restait pratiquement blanche. Un matin, en relisant un peu toutes ces esquisses, je me suis aperçu qu'il y avait un petit motif obsessionnel qui se glissait là, par-ci, par-là. Et je me suis dit, tiens, c'est la sonnerie de Sainte-Geneviève à laquelle je ne pensais plus depuis une dizaine d'années au moins.
Donc, vous avez réalisé après.
Donc j'ai réalisé que inconsciemment, je m'étais, disons, j'avais repris ce petit motif. Et à partir de là, tout a été très vite. C'est-à-dire, quand j'ai décidé qu'en fait, ça serait une sorte d'hommage et de très grande variation amplificatrice de ce simple motif de Marin Marais. La composition s'est achevée très très rapidement. Puis en cours de route, il y a d'autres carillons qui sont venus se greffer là-dessus. D'autres souvenirs de carillon de l'Arlésienne de Bizet et carillon de Boris Goutounov de la Grande Porte de Kiev. D'autres musiques obsessionnelles comme le joueur de vielle à la fin du Voyage d'hiver de Schubert. Donc tout ça s'est finalement réuni. Toutes ces musiques de style d'époque complètement différentes.
Et en même temps, ce n'est pas citationniste du tout.
Non, parce que les citations ne sont pratiquement jamais exactes. Oui. Parce que je n'avais pas vu la partition de la sonnerie de Sainte-Geneviève. Les citations de Moussorgski sont, c'est plutôt des allusions que des vraies citations. La citation pour elle-même ne m'intéresse pas. Oui. C'est vraiment ce que mon souvenir en a fait et ce que je peux en faire moi-même dans l'œuvre qui est en cours d'élaboration.
Et vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par ces intuitions du souvenir hein.
Je contrôle beaucoup après. C'est-à-dire, c'est assez complexe. Je suis à la fois intuitif dans la mesure où je ne cherche pas du tout à avoir un plan préétabli, où j'élimine toute rhétorique, tout discours contraignant. Mais je contrôle ensuite énormément sur tout ce qui concerne les durées, l'harmonie. Et je peux passer deux jours à chercher un accord qui fasse transition entre un épisode et un autre.
Mais surtout l'harmonie qui est un domaine pour vous très important.
Voilà, qui est le domaine pour moi, avec le timbre, le domaine le plus important. Donc il y a à la fois c'est à la fois instinctif, intuitif dans l'aspiration, et ensuite extrêmement contrôlé.
Alors on va écouter un extrait de ce trio, donc c'est une œuvre qui date de 1998.
Voilà, c'est la fin du trio dans lequel le carillon de Marin Marais apparaît de façon plus évidente, mais qui est superposé à un autre carillon, alors lui plutôt russe, disons, que joue le piano.
Thank you.
un extrait du trio de Philippe Hersant. Philippe Hersant, en effet, vous avez une attirance certaine pour, c'est vous-même qui le disiez, pour les pièces, pour les œuvres obsessionnelles, qui ont des structures comme ça, répétitives, litaniques.
Oui, ça c'est certain. Et aussi pour les télescopages temporels. Ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est de tisser des liens entre le passé et le présent. En plus, il se trouve que la sonnerie de Sainte-Geneviève est une des premières pièces qui a été écrite vraiment pour un trio. C'est-à-dire qu'il y a la basse continue, le clavecin qui a un rôle quand même assez réduit. Là-dedans, un rôle vraiment de basse continue. Et puis, il y a la viole de gambe et le violon. Finalement, c'est un effectif qui ressemble un petit peu à celui du trio romantique, disons piano, violon, violoncelle. L'effectif que j'avais choisi, et j'étais justement gêné par cette référence romantique, parce que pour nous, le trio, c'est Schubert, Beethoven, oui. Brahms. Et finalement, là, en remontant à quelque chose de plus ancien, de l'époque baroque, j'évitais ce piège.
De tomber
dans la référence romantique.
Romantique.
Et maintenant, je suis remonté un peu plus loin.
Et en fait, cet effet d'érosion temporelle provoque quelque chose d'assez intéressant. C'est ce que vous appelez le télescopage. C'est-à-dire ça gomme absolument toute la chronologie des événements.
C'est ce que j'aime faire, effectivement. Parce que, en même temps, il y a le mélange contemporain de deux musiques du passé qui seraient, disons, ce côté assez russe que joue la partie de piano, je crois, qui est assez clair. Il y a même, on peut dire, une sorte de souvenir de la fin des noces de Stravinsky. Et puis cette pièce baroque qui date du XVIIe siècle. Et mon trio commence par une grande phrase de violoncelle qui, elle évoquerait presque, je dirais pas Dvorak, mais enfin, une musique romantique du... Donc,
en tout cas, une façon
de brouiller
française,
les pistes, qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes œuvres, parce que je le ressens comme ça, en fait, parce que j'ai des passions pour des tas de choses très différentes et d'époques très éloignées, et après tout, le réunir à l'intérieur d'une pièce est quelque chose que j'aime faire.
Vous avez cette attitude uniquement avec la musique ou vous pouvez l'avoir avec la littérature également?
Je peux l'avoir avec la littérature, mais c'est beaucoup plus difficile à expliciter. Disons que là, quand il y a une référence musicale, on peut la faire entendre, Mais en littérature, disons que je suis très très intéressé par ce que fait actuellement Pascal Quignard dans les livres qu'il vient, Le Dernier Royaume, là, dont il vient de publier 3 volumes. J'ai pas encore tout lu.
Mais réflexion sur le temps.
Voilà, c'est une recherche qui m'a. Enfin, une recherche, c'est une démarche qui me...
La distinction entre le jadis et le passé.
Voilà, qui me plaît beaucoup, dans laquelle je me sens... je me glisse très, très, très facilement. Il se trouve d'ailleurs que Pascal Quignard aime aussi beaucoup la musique baroque, évidemment, Tous les Matins du Monde, la sonnerie de Sainte-Geneviève, mais aussi le moine japonais Basho. Et puis cette façon de construire son livre sur des événements récents, sur des choses très érudites concernant des événements complètement oubliés de l'histoire. Ce côté imprévu, impromptu qui existe dans ces livres est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Alors il y a un autre phénomène que vous aimez dans la proximité avec la question du temps, du souvenir, de la mémoire. C'est la façon dont le souvenir vous parvient, mais de façon absolument... déformé, vous avez utilisé le mot tordu. Et il y a une œuvre de vous qui exprime cette déformation du temps.
Oui, effectivement. Il y en a deux. Il y a une pièce pour basson qui s'appelle Opi, qui est inspirée par un chant indien. Malheureusement, j'ai jamais retrouvé le disque qui m'a inspiré cette pièce. Je ne sais pas où je l'ai entendu. Puis alors une autre pièce là, par contre, j'ai retrouvé le disque après. Alors, il s'agit des 5 miniatures pour flûte alto, et la dernière est... Enfin, chacune des miniatures est un souvenir d'une musique extra-européenne. La 5e est un souvenir d'une flûte berbère que j'avais entendue sur disque longtemps avant, un disque que je n'ai pas chez moi. Donc j'ai écrit cette pièce avec le souvenir d'une flûte berbère du Maroc.
Alors on va d'abord écouter la 5e miniature, donc votre pièce, et ensuite on écoutera la source inspiratrice. Thank you.
Bravo à Jean-Luc Menet.
Oui, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Vous ne lui avez pas facilité la tâche.
C'est effectivement une pièce très difficile qui doit se jouer en respiration circulaire, c'est-à-dire sans reprendre son souffle, selon une technique beaucoup pratiquée, notamment par les charmeurs de serpents. Et moi, donc, j'avais souvenir d'une pièce de flûte berbère, très rapide comme ça, très, très volubile, et en respiration circulaire. Et puis, j'ai voulu rechercher le disque pour le faire entendre à Jean-Luc Menet, retrouver effectivement la source inspiratrice. Alors, j'ai fini par retrouver le disque et j'étais quand même assez surpris parce que ma mémoire avait complètement déformé la source originale.
La source originale. Philippe Hersant, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ?
J'écoute énormément de musique, oui, de toutes sortes et souvent de façon un peu compulsive. J'ai des œuvres comme ça qui m'accompagnent pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, en ce moment, ce sont les fantaisies pour viol de Purcell. Ça peut être Mahler, ça peut être des musiques extra-européennes comme celle-ci.
Vous choisissez ou vous prenez ce qui vous arrive
Non, ouais. Ça peut être lié à, disons, à mon métier, puisque je travaille aussi à la radio, donc j'ai écouté découvert beaucoup d'œuvres comme ça. C'est un des grands plaisirs de travailler à France Musique ou à France Culture. Non, c'est un petit peu comme ça, au fil du hasard.
Et qu'est-ce que l'écoute intensive de la musique apporte à la composition? Vous continuez d'écouter de la musique lorsque vous composez?
Non, au moment où j'écris, j'ai beaucoup de mal à écouter de la musique, par contre. C'est forcément, elle me dérange dans mon travail. C'est le bruit, en général, ne me dérange pas, sauf la musique, justement. C'est un petit peu incompatible. Je crois qu'il y a un moment où il faut vraiment se renfermer en soi. Et chercher des choses à l'intérieur de soi. Bon, donc je me sers de ce que j'ai entendu avant, de toutes ces alluvions, enfin tout ce qui a pu se déposer dans ma mémoire, mais je n'écoute pas de musique nouvelle du tout à ce moment-là. Il y a un nécessaire besoin de repliement sur soi.
Alors, vous dites, Philippe Hersant, que vous aimez ces phénomènes de bifurcation, d'accident, d'intrusion, d'événements que vous n'avez pas prévus et que vous les laissez volontiers entrer dans le travail de composition.
Il y a une phrase de Stravinsky qui m'avait frappé dans La Poétique musicale, où il dit que il lui arrive, quand un accident, disons, en jouant du piano, le doigt qui glisse, qui se trompe de touche, il est arrivé de tirer parti de cet accroc, de cet accident. Mais il m'arrive aussi de faire des fautes de copie et de trouver que finalement, c'est aussi bien comme ça, sinon mieux. Mmh. Il m'arrive de trouver des accords que je cherche, notamment une transition entre deux épisodes, des accords que je cherche depuis 15 jours, de même mettre au piano et il me tombe sous les doigts brusquement. Donc moi, j'aime beaucoup ces irruptions comme ça de quelque chose d'imprévu, d'irrationnel. Je suis contraire d'un compositeur qui doit tracer un plan et baliser vraiment son parcours, le parcours de son œuvre au départ. Moi, j'accueille de plus en plus les choses comme ça, comme elles me viennent. Et il m'est arrivé de tirer parti même d'un couac. Ça m'est arrivé avec des pièces que j'ai écrites pour Pascal Gallois, des pièces pour basson principal et donc un petit ensemble. Et Pascal m'avait joué plusieurs sons multiphoniques. Bon, parce que tous les instruments avant ont la possibilité de jouer plusieurs sons en même temps, si on adopte certains doigtés ou qu'on souffle de telle ou telle façon. C'est ce qu'on appelle des canards, en fait. C'est ce qu'on apprend aux instrumentistes à ne pas faire. Bon. Et lui, s'intéresse énormément à son instrument, qu'il connaît merveilleusement, et m'a fait entendre un son multiphonique assez étrange, avec une sorte de balancement entre le grave et l'aigu. Et là, je l'ai arrêté. Il y a d'autres sons qui ne m'avaient pas intéressé, mais celui-là, brusquement, m'a intéressé, je ne savais pas pourquoi, il me rappelait quelque chose. Donc voilà, il y a mémoire qui se mettait en route. Donc il l'a rejoué, et puis je me suis souvenu, oui, c'est le balancement qu'il y a dans la lugubre gondole de Franz Liszt. J'adore les dernières pièces pour piano de Liszt, parce que je trouve qu'il a... Il a un langage là qui est extrêmement novateur du point de vue harmonique. C'est à l'opposé du Liszt brillant et
virtuose.
C'est un Liszt très dépouillé, très bon nuage gris. Où toutes ces pièces-là sont par moments annonces Debussy. Mais enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elles annoncent Debussy. En fait, c'est cet univers comme ça crépusculaire et très étrange qu'on trouve dans ces pièces. Donc j'ai réécouté la lugubre gondole et je dis ben oui, effectivement, il y a une parenté entre ce son bizarre de basson et puis la pièce de Liszt. Et du coup, le morceau s'est construit complètement là-dessus. Ça a déterminé sa forme, son effectif instrumental. Donc c'est vraiment, je dirais, une pièce qui est née d'un accident.
Alors on va peut-être écouter la lugubre, un extrait de la lugubre gondole de Franz Liszt.
Thank you.
La lugubre gondole de Franz Liszt et ce fameux balancement que vous avez retrouvé, Philippe Hersant, dans le couac, le son multiphonique du basson.
Oui, c'est-à-dire que brusquement, j'ai eu l'impression que la lugubre gondole se trouvait à l'intérieur de ce son, qu'elle était comme prisonnière de ce son et qu'il fallait la
libérer.
Beaucoup de gens, à vrai dire, en entendant ce son multiphonique, m'ont dit « non, je vois pas trop le rapport ». Faut dire que les sons multiphoniques sont pas très stables, donc...
Non mais enfin, on n'a pas encore entendu la pièce, on va l'entendre dans quelques instants. Je me demandais, Philippe Hersant, alors c'est vrai que dès lors qu'on est sur le terrain du souvenir, du ressouvenir, de ce qu'il reste du souvenir et comment le capter, comment le canaliser dans la création artistique, on est d'emblée ramené en quelque sorte à une démarche ou à la référence proustienne.
Bien sûr, oui. Voilà. Bon, je pense qu'on a tous vécu l'histoire de la fameuse Madeleine. Ce qui différencie, disons que ces souvenirs musicaux ne sont pas liés forcément à des souvenirs personnels. C'est-à-dire le souvenir de la sonnerie de Sainte-Geneviève ne m'a pas replongé dans l'époque à laquelle j'avais découvert cette pièce.
C'est dissocié du vécu.
C'est souvent dissocié du vécu. C'est simplement une sorte d'émotion qui est restée gravée à l'intérieur, qui peut-être a été en sommeil, souvent a été en sommeil comme ça pendant 15 ans, et qui brusquement ressurgit. Mais ça ne fait pas ressurgir devant moi...
le gâteau au chocolat.
Mes églises... C'est assez dissocié de la vie personnelle, pas toujours.
Donc vos souvenirs sont vraiment de nature musicaux.
Oui.
Oui. Alors on va l'écouter, cette quatrième pièce pour basson, née de ces accidents qui sont pour vous à l'origine parfois de trouvailles et de développement compositionnel.
Et c'est un autre exemple de télescopage vraiment de deux époques, puisque le son multiphonique... C'est quelque chose qu'on utilise dans la musique que depuis fort peu de temps. Ce sont des sons comme ça très étranges qui ont intéressé les musiciens à partir des années 60-70. Mais est lié donc au souvenir de Liszt, lequel Liszt se souvient lui-même de Wagner et de Tristan. Donc il y a une sorte de mise en abîme comme ça, d'hommage à Liszt et à travers Liszt à Wagner. Et tout cela avec cette partie de basson qui est en respiration circulaire aussi, comme la pièce pour flûte de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne respire jamais, ce qui crée un son très étrange, qu'on pourrait presque croire un son électroacoustique en fait. Ouais.
Thank you.
Philippe Hersant, on écoutait la quatrième pièce pour basson, une œuvre que vous avez composée en 1995 avec cet arrière-fond listien, la lugubre gondole, donc on entend bien ce balancement en effet, et puis ce son multiphonique dont vous disiez qu'il n'était déjà plus totalement instrumental.
Mais... Oui, nous, on peut penser, je ne sais pas, à une sirène de bateau ou à un son produit électriquement, électroniquement.
Et pourtant, je n'ai jamais... connaît méfiant par rapport à ces questions-là.
Voilà, ouais. Sans doute que j'ai peur de ne pas contrôler vraiment bien cet univers qui me semble immense et un peu, comment dire, oui, difficile à cerner. Il est vrai aussi que j'aime le geste instrumental et je suis souvent gêné par la distorsion du son effectué en direct, c'est-à-dire lorsqu'on... Même les micros HF me gênent un peu, oui. Au théâtre. Lorsque le son part d'un autre endroit que la source sonore, enfin, on oui. voit un acteur sur scène et on entend sa voix qui se part de
qui
derrière.
Est spécialisé.
Et j'avais vu un spectacle comme ça de Peter Sellars qui m'avait beaucoup gêné, qui était Le Marchand de Venise, où j'avais finalement l'impression d'être à la télévision, comme si personne n'était là sur scène. On avait des écrans partout, il y avait les surtitres de chaque côté de la scène. On entendait les voix venir de partout et on oubliait complètement qu'il y avait des personnages sur scène. On ne les regardait même plus. Bon, c'est à la fois intéressant, déroutant, mais je suis pas très attiré par ce. Voilà, il y a quelque chose qui me gêne dans le phénomène.
Préférez vous concentrer sur un artisanat plus classique, voilà. De facture oui. plus classique. Philippe Hersant.
On a déjà bien du mal à maîtriser. Ouais.
Philippe Hersant, les références. Que vous avez évoqué depuis le début de cette émission, en dehors de Marin Marais, ne sont pas strictement des références liées à un héritage de tradition musicale française. Vous avez été l'élève de Jolivet. On vous voit plutôt d'un autre côté, c'est-à-dire, bon, y a Liszt, évidemment, vous avez évoqué Moussorgski. Plutôt l'école russe, l'école hongroise.
Effectivement, j'ai l'impression que je me situe dans un héritage, un double héritage, disons, qui est bon, d'une part la musique française, Debussy, Ravel. Oui. Alors là, je dirais que je ne me rends pas vraiment compte, ça fait partie de mon langage. Je ne fais pas spécifiquement référence à Debussy ou à Ravel, mais je sais que ça fait partie de mon bagage.
C'est totalement intégré.
C'est intégré. Et d'autre part, la musique d'Europe centrale, qu'elle soit tchèque, russe ou hongroise, qui est une musique avec laquelle je me sens beaucoup d'affinité, je dirais tout particulièrement avec Janáček.
Il y a deux compositeurs difficiles.
Qui est un compositeur difficile, mais qui m'émeut profondément. Je dirais qu'il y a deux compositeurs que j'aime autant l'un que l'autre, mais qui sont radicalement différents, c'est Bartók et Janáček. Bartók qui, lui, avait besoin de construire de façon extrêmement précise ses œuvres d'après le nombre d'or. Il y a même des quatuors à cordes où les mouvements ils donnent la durée au centième de seconde près. Donc il y avait un découpage du temps extrêmement précis. Je crois qu'il ne pouvait pas écrire s'il n'avait pas fait cet exercice comme ça, cette sorte de contrainte temporelle. Et puis vous avez Janáček où là on a l'impression que c'est au fil de ses émotions, quoi. Qu'il résiste complètement à l'analyse parce qu'il peut passer d'une chose à l'autre sans transition. De façon très déconcertante et on se demande comment ça tient debout, mais ça tient debout. Mais c'est extrêmement difficile de décortiquer, disons entre guillemets, une partition de Janáček. On a l'impression qu'elle vous file entre les doigts. Et c'est un peu ce que Debussy disait à propos de Moussorgski, qui est quelqu'un qui Janáček admirait beaucoup. Enfin, je les sens très proches. Il parlait des enfantines Moussorgski en disant que il avait l'impression qu'il était hors de tout système de langage et qu'il se laissait guider comme ça. C'était au fil de ses émotions. Je n'ai plus la citation exacte en tête, mais c'est ce que je ressens aussi beaucoup chez Janáček. Et ce côté intuitif me séduit beaucoup. Et voilà, j'aimerais en fait.
Comme si c'était en dehors des systèmes.
Hein. C'est totalement en dehors des systèmes, en dehors de toute rhétorique, en dehors de toute contrainte de langage, de grammaire, de tout ce que vous voulez. Ça impose de la part de l'interprète, je pense, un travail de recréation de restructuration. Bon, si c'est mal joué, je crois qu'Janáček ne tient pas la route. Je crois que ça peut facilement s'effondrer si ça n'est pas complètement habité de l'intérieur. J'ai remarqué ça notamment avec ses quatuors à cordes. Mais lorsque c'est bien joué, il y a cette sorte de liberté qui est tout à fait extraordinaire.
Et là, vous avez choisi un extrait de Souvenir de la Maison des Morts.
Oui, c'est le dernier opéra d'Janáček, oui, pour lequel j'ai une tendresse particulière, qui est quand même une gageure, parce qu'il il n'y a pas de fil narratif, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de... C'est une galerie de personnages, en fait. Mais j'aurais pu choisir aussi le journal d'un disparu, qui est... Il a une façon étonnante de faire de la musique avec... Juste, des sentiments humains, sans avoir besoin d'artifice. Voilà. Je crois que c'est ça surtout qui me plaît beaucoup chez lui. Et la première fois que j'ai entendu l'ouverture de La Maison des Morts, je me dis, c'est incroyable comment on peut passer d'un c'est comme une suite de microclimat. Mmh. On a l'impression que rien ne les relie. Et pourtant, si, c'est, il n'y a pas une note à changer. Tout est à sa place, mais tout est vraiment complètement guidé par l'émotion, par l'amour qu'il a des gens, de ses personnages.
Avec l'ouverture du souvenir de la maison des morts de Janáček, Philippe Hersant, là on se trouve, c'est un extrait donc que vous avez choisi, un compositeur que vous aimez, et vous nous avez dit pourquoi. Là on se trouve confronté à un autre domaine, à la lisière de l'image, de l'allégorie, de la narration, de l'éclatement de la narration. Tous ces univers et tous ces aspects que vous aimez également intégrer et faire venir dans votre musique.
Oui, alors je parlais tout à l'heure de Pascal Quignard, donc il me semble une démarche comme ça que je trouvais, avec laquelle je me sentais en phase, si on veut dire. Il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté pour moi, c'est dans un tout autre domaine, c'est Fellini, que j'ai découvert à l'âge de 15 ans en voyant 8,5 en italien non sous-titré. Bon, je dois dire que j'ai absolument rien compris, mais je suis resté à regarder le film deux fois de suite. Et je me suis souvent posé la question de pourquoi Fellini avait tellement d'importance et pourquoi je me sentais si proche de lui, parce qu'il y a tout l'aspect, disons, le plus folklorique, enfin le Fellini... qui est devenu proverbial, quoi, le créature monstrueuse, baroque échevelée, bon, tout ça me semble pas très proche de moi, mais je crois qu'en fait c'est la façon qu'il a de construire ses films, notamment à partir de la Dolce Vita, en éliminant pratiquement la narration linéaire, et en axant tout, disons, sur un personnage, un fil conducteur ou un groupe de personnages, et puis aussi pour le rapport qu'il a à la mémoire, c'est-à-dire que dès 8,5, on voit ce personnage incarné par Mastroianni, un peu envahi par des rêves, par des souvenirs d'enfance qui sont complètement déformés par l'imagination de Fellini, et parce que je crois que lui aussi, le souvenir exact, précis, ne l'intéressait pas du tout, là n'était pas la question, c'était plutôt ce qu'il pouvait en faire, comment adulte il pouvait utiliser dans ses films des souvenirs comme ça, transformés, et usés et rodés par le temps. Et il se trouve que j'ai, au moment d'écrire mon concerto pour violoncelle, le deuxième, j'ai trouvé en Italie le scénario d'un film que Fellini n'a jamais tourné, un film qu'il a voulu tourner de nombreuses fois, qui serait appelé le Voyage de J. Mastorna.
Avec Mastroianni, justement.
Avec Mastroianni. Mastorna, d'ailleurs, voudrait dire Mastroianni torna, le retour de Mastroianni. Et c'est un film qui n'a jamais tourné, mais dont le scénario a été distribué, enfin redécoupé, hein, comme ça, par petites scènes, et qui a nourri la plupart de ses films suivants. Donc on trouve des bouts de ce film dans les films postérieur. En fait, ça raconte l'histoire d'un violoncelliste qui est en avion, qui rentre à Florence pour donner un concert, et puis l'avion donne des signes de faiblesse. Il est obligé de se poser en catastrophe sur le parvis de la cathédrale de Cologne. Bon, là, il suit des scènes d'affolement, etc. Et puis le personnage principal se rend compte bientôt qu'en fait, il est mort. Et il est là absolument envahi par des souvenirs qui viennent de tous côtés, des souvenirs d'enfance, des rêves, des angoisses. On voit bien ce que Fellini a pu faire là-dessus. Et le scénario est d'ailleurs magnifique, écrit en collaboration avec Buzzati. Et moi, quand j'ai écrit ce concerto pour violoncelle, je me sentais un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire envahi par des souvenirs musicaux, une sorte de bout de valse, de comptine, une danse que j'avais entendue au Mexique dans une fête de village. Bon. Et tous ces souvenirs, je les ai finalement accueillis volontiers, alors que d'habitude, je les élimine, je leur coupe le cou, je leur dis bon. Enfin, je le faisais en tout cas quand j'ai commencé à écrire de la musique. Maintenant, je ne le fais plus du tout, au contraire. Et disons que c'est venu nourrir comme ça ce concerto qui a pris des proportions beaucoup plus importantes que celles que je prévoyais au départ, parce qu'il dure plus d'une demi-heure et que je pensais écrire une œuvre assez courte.
Mais vous considérez déjà que c'est un petit peu un opéra, ce concerto?
Et oui, pour moi, c'est un petit peu un opéra dont le personnage principal serait le violoncelle. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'opéra sans parole, où le personnage est vraiment le guide, le fil d'Ariane, et tout repose, enfin, disons, la construction qui est pas du tout rigoureuse, mais enfin, il y a quand même une construction et totalement axée autour du fil, quoi, que représente le violoncelle.
C'était Nocturne avec Philippe Hersant, équipe de réalisation Jean-François Néolier, Laurent Rousseau, Daniel Cohen-Evinas.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 octobre 2002 sur France Culture.